J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats que nous vous proposons sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Dans une interview publiée la semaine dernière, Albert Yuma, président du conseil d'administration de la GECAMINE, affirme que toutes les mines de la Générale des Carrières et des Mines ont été cédées depuis 15 ans à des sociétés étrangères, à savoir Tech et Fugurume, KCC, Rwashi, Sicomine, etc., etc. La GECAMINE n'est donc qu'un actionnaire minoritaire dans ces sociétés et n'a peu rien à-t-il ajouté. Alors comment commentez-vous cette affaire et qu'est-ce qu'il faut changer dans l'urgence? Pour participer à cette émission, composez le 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous sur notre page Facebook ou encore sur www.radiokapi.net. Polydor Basunga assure la mise en onde de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Pour résumer les propos du président du conseil d'administration de la GECAMINE, la RDC est le premier pays producteur de cobalt, de cuivre, de diamant, de zinc et d'autres minéraux, et qui constitue d'ailleurs les richesses du pays. Alors comment expliquer que la RDC, avec autant de richesses, qu'il y ait des Congolais qui vivent avec moins $1 par jour? Alors Albert Yuma, président de la GECAMINE, dit que c'est la conséquence des mauvais choix ou d'orientations qui ont dicté fin des années 90, début 2000, quant à la suite, effectivement, de l'environnement politico-social, l'État congolais a été contraint, sous les conseils de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité de ses actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça génère des revenus. Albert Yuma reconnaît que c'était une erreur très fatale. Nous recevons dans ce studio docteur, révérend docteur King Kabobole, qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors vous êtes consultant international en expansion économique des pays et également de croissance des affaires.
Tout à fait.
Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ce studio pour échanger de manière citoyenne avec les auditeurs qui sont d'ailleurs déjà en ligne.
Merci.
Il y a Alain Bolodjoie, Jérémy de Lubumbashi et Christian de Kinshasa. Première question, comment commentez-vous cette actualité?
C'est une de, en anglais, j'allais dire, you know, I'm devastated. Donc, quand je suivis ces commentaires, j'étais quand même un peu étonné, j'étais surprise. D'autant plus que celui qui a donné le commentaire, c'est un de nos dirigeants, quelqu'un qui a dirigé et qui dirige pour le moment la FEC et qui dirige la GECAMINE. Et lui qui s'est plaint. C'est vrai, sa plainte a été fondée, mais ils ont été conseillés. Et ils seront toujours conseillés, le pays sera toujours conseillé. Mais être conseillé et prendre la décision, c'est deux choses complètement différentes. La Banque mondiale, le FMI et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous conseillent en fonction de ce qu'eux connaissent. Mais ils ne connaissent pas la profondeur de ce que vous connaissez. Quand vous prenez les décisions en fonction de leur conseil et en fonction de votre capacité à gérer et de votre positionnement. Donc, comme disent que le pays, on n'a pas forcé. Ce n'était pas une guerre. On n'a pas pris nos concessions par la guerre. Ça serait autrement comme à l'époque coloniale. On est venu, on nous a pris. Mais ici, nous sommes en démocratie. Quand on vous conseille, ce n'est pas nécessairement
un pays souverain. En plus.
Nous sommes un pays souverain. Quand on vous conseille, ce n'est pas nécessairement que vous devez le faire. On a conseillé la Zambie. On va y entrer après. On a conseillé la Zambie. La Zambie avait la Z6M. Mais aujourd'hui, la Zambie est là, la Z6M IH. Zambian Corporate Mine Investment Holding. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation. Eux, ils sont partis eux-mêmes jusque dans les bourses pour chercher les capitaux. On les a conseillés, mais ils ont fait une transformation. Une transformation qui amène une amélioration. Donc, ces commentaires-là, j'attends. Parce que, on est resté sous la soif de dire, quelle est la suite? Parce que ça, c'est un problème du passé. Mm-hmm. Mais quelles sont les perspectives?
Alors, avant d'arriver à la suite, parlons de vrais problèmes réellement posés. Quand on dit qu'aujourd'hui, avec 5 entreprises, partenaires techniques et financiers, qui exploitent le cobalt et qui exportent 1 million de cuivre, des tonnes de cuivre, et 100 000 tonnes de cobalt, mais ça ne profite pas à l'État congolais. L'État ne gagne rien. Et si nous comparons les années passées où l'État était seul comme actionnaire et qui produisait 500 000 tonnes simplement et qui avait pratiquement 17% qui entrait et qui, la Gécamines elle-même, survenait aux besoins du budget de l'État. Et pourquoi aujourd'hui c'est difficile?
Analysons ça dans les petits détails. On va prendre trois perspectives. La Gécamines de l'époque, c'était une entreprise du trésor public, une entreprise d'État. C'est-à-dire, les dividendes de la Gécamines allaient directement à l'État. Ça, c'est une participation, une grande participation au budget de l'État. Outre cela, il y avait les taxes, les redevances minières, quand la Gécamines exportait le cuivre au Boken et le cobalt. Outre cela, il y avait les taxes sur les chiffres d'affaires en fin d'année. Donc, la Gécamines avait une contribution à trois parties. Il y avait les redevances minières et il y avait les taxes.
Hein, les royalties
Non, redevances minières, c'est ça, le royalty. Mmh. Donc, redevances minières. Mmh. Il y avait les taxes normales, donc sous les chiffres d'affaires, et puis les dividendes. Mais aujourd'hui, cette même Gécamines, elle est en partenariat. C'est vrai, elle peut être minoritaire. ZCCM Holding est aussi minoritaire. Mais le problème n'est pas seulement au niveau de la Gécamines. Le problème, il est au niveau de tout l'État, parce que les royalties, où est-ce qu'on parle de royalties, où est-ce qu'on parle de redevances minières dans le code minier, le nouveau code minier révisé? C'est l'article 240. On parle de pourcentage et il y a aussi l'article 241 qui est l'article clé que tout le monde néglige. C'est comme ça que le pays ne sait pas se retrouver. Parce que dans l'article 241, il est dit ceci. L'assiette de redevabilité, de redevance minière, c'est la valeur commerciale. Mais nous, on ne vend pas le cuivre. On ne vend pas le cobalt. On exporte le cuivre. Mais qu'est-ce qui fait? Quelle est notre assiette de redevance? L'assiette est devenue le coût. Parce que nous avons fabriqué une manière de créer la valeur du cuivre. On n'a pas une valeur marchande parce qu'on ne vend pas. On ne vend pas le cuivre au Congo. Mais on n'a pas une valeur marchande. La valeur marchande, le fair value. La valeur marchande serait entre le vendeur et l'acheteur. Il se convient d'une valeur. Et cette valeur est toujours la valeur la plus haute. C'est comme ça quand on parle de LME. Mais c'est une valeur marchande mais internationale. On devait avoir une valeur marchande au Congo sur laquelle la redevance serait appliquée. Et cela ajouterait de surcroît, ipso facto, comme on le dit, ça ajouterait maintenant le chiffre d'affaires. Maintenant, quand on va taxer aussi sur le chiffre d'affaires, on aurait des montants accrus. Mais au niveau structurel du pays, le code a été révisé, mais c'est un échec.
En 2018, ce code de 2002 a été révisité pour donner de l'avantage à la RDC, pour que la RDC récupère ce qui lui manquait. Alors, Albert Yuma a insisté pour dire les avantages autour du remboursement des investissements et aussi l'amortissement qui devait être accéléré, ces dispositions ont été élaguées. Alors, comment expliquez-vous ça?
Ok. On a révisé.
Ça, c'est la première action quand on a reconnu ses erreurs.
Tout à fait. On a révisé le code minier. On l'a révisé. On a un nouveau code qu'on a présenté même à Indaba. J'étais là, en Afrique du Sud. On a présenté ces codes. Mais je leur ai dit que c'est un échec. Ça peut être une réussite administrative, mais un échec stratégique. Parce que le problème à la révision était quoi? C'était un problème économique. Ce n'était pas un problème technique. C'était un problème économique. Je sais de quoi je parle. Là. J'ai interviewé à l'époque, avant de créer ce qu'on a créé comme bourse et tout là, j'ai interviewé l'ingénieur Mbaka qui est mort, qui a été le premier DG du cadastre minier du CAMI et qui tout a été fait. DG de la Gécamines, qui a été ministre et tout là. Mais je l'ai interviewé pour arriver, comment est-ce qu'ils ont milité pour faire le code. Le code, c'était parce que ils voyaient à un certain moment que les concessions minières étaient en train d'aller sans contrôle. C'est comme ça qu'eux ont été précurseurs. Mais quand on a révisé, quand on a fait le premier code, il était en lien avec le code des investissements. Le code des investissements donnait les avantages aux investisseurs. Et ça nous a attiré beaucoup d'investisseurs. Nous avons les Tenke Fungunu et tout qui sont venus parce que le code était bon.
Mais ce qu'il fallait réviser, on a révisé parce qu'économiquement, le pays ne se retrouvait pas. Qu'on me montre dans le nouveau code minier, où est-ce qu'on a révisé économiquement? Les gens ont révisé, mais il n'y a pas une révision économique. Oui, on va me dire l'article 240, on a augmenté les redévances. Mm-hmm. Oui, et c'est comme ça que les mines comme les Barrigues et tout là, les entreprises ont dit, mais vous avez augmenté. Mais on a augmenté le multiplicateur, mais on n'a pas augmenté l'assiette, parce que l'assiette est restée la même du moment qu'on n'a pas une valeur marchande. Si on a une valeur marchande, ce serait une grande valeur, et sur cette valeur, on peut appliquer n'importe quel pourcentage, on aurait de l'argent. Mais on est resté au problème qui est au Congo, on est producteur, mais on n'est pas vendeur. Le Rwanda n'est pas producteur du cuivre, il n'est pas producteur du coltan, mais il le vend. Pourquoi? Parce qu'il a une bourse.
Mais référent docteur, oui. King, lorsque des révélations du genre que ces cinq entreprises, KCC, Rwachi et autres, bradent les minéraux, c'est-à-dire ils gagent cela, auprès des banques étrangères, ils prennent les prêts, ils les empruntent sous forme de prêts qu'ils ramènent ici, au lieu de donner des dividendes à la Gécamines. Comment la Gécamines pourrait vivre?
D'abord, c'est un faux débat. Quand on dit brader, oui, brader c'est factuel, mais le débat il est faux. Parce que moi j'ai demandé une fois à un des de la Gécamines, ou à une délégation de la Gécamines, je ne suis pas là pour citer les noms. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller en bourse? C'est quoi la fonction d'une bourse? Je ne parle pas de bourse de métaux, on va en parler plus tard, mais je parle de bourse de valeur. Une bourse, c'est une institution là où vous allez pour faire la levée de fonds. J'ai dit, donnez-moi Cambove. Nous allons faire de Cambove une société filiale de la Gécamines, et moi je vais mettre ça dans Altex, Alternative Exchange en Afrique du Sud, pas dans la JSE, le Johannesburg Stock Exchange. Parce que moi-même, je viens, j'étais consultant indépendant à la bourse de Johannesburg. Ils ont refusé. Ils ne m'ont pas donné suite. Mais la ZCCM, j'en reviens, pour ne pas parler, André Wamesso a parlé du Botswana, mais moi je vais juste près ici à côté.
André Wamesso, c'est l'actuel directeur de cabinet adjoint du chef de l'État.
Chargé des questions économiques et des questions de finances. Il a parlé du Botswana, il a donné un très bon exemple, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Vous me comprenez. Alors, je prends la ZCCM, qui était une entreprise d'État. Ok. Mais quand elle s'est transformée, elle a compris que le problème n'était pas un problème technique. Ce n'est pas un problème de minéraux. Le problème, c'est un problème de stratégie, un problème de capitaux. Elle s'est transformée. Vous savez comment je vous parle. Cette ZCCM Holding, elle est dans trois plateformes boursières. Elle est d'abord à la bourse de Lusaka Security Exchange, la bourse de Lusaka. Elle est à la bourse de Londres, London Stock Exchange, et elle est à Euronext à Paris. Pour faire quoi? Pour lever des capitaux. Qu'est-ce qui dit que la Gécamines ne peut pas aller dans une bourse lever des capitaux? Mais si vous ne savez pas aller dans une bourse pour lever les capitaux, les autres viendront. Mais quand ils ne viendront pas pour votre avantage. Pourquoi est-ce que la Gécamines n'est jamais allée chercher les capitaux dans les bourses? On cache quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher? Parce que moi, je peux amener la Gécamines dans une plateforme boursière aujourd'hui.
C'est le débat qui est ouvert. C'est une des solutions que vous préconisez. On va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints à ces débats après la sortie médiatique de Albert Yuma, président du conseil d'administration de la Gécamines. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention directe.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous êtes plus de 8500 à avoir été touchés par ces sujets. Merci d'avoir déposé vos commentaires. Nous poursuivons cette émission avec vous. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR, bonjour également à l'invité. D'entame, d'entrée de jeu, je me dis, c'est vraiment déplorable ce qui se passe maintenant à l'heure même à la géante société qui a fait, qui faisait la fierté de notre pays tout entier. Vraiment, je me dis, lorsque j'ai ouï dire que cette entreprise est réduite en simple actionnaire et classée sous une étiquette minoritaire, vraiment, je n'en reviens pas. Parce que moi qui vous parle, je suis fils de la GECAMI. Et à l'époque, bien qu'on était des petits-enfants à ce temps-là, nous avons vécu quand même ce qui s'est passé à la GECAMI. Mmh. Ne plus qu'à Colouézi, où nous avons été, qu'on appelle aujourd'hui Lualaba, on pouvait peut-être trouver mention, quand vous entrez à la ville, on écrit Colouézi, la GECAMI de Colouézi était le poumon. Mmh. On pouvait parler de l'AMIBA, non. D'abord, la GECAMI à elle seule pouvait booster l'économie de notre pays. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la GECAMI soit à genoux et on saisit ce moment pour pouvoir dénoncer tout ce temps, qu'est-ce qu'on attendait pour pouvoir dénoncer.
Oui, mais Jérémy, monsieur Albert Yuma l'a dit et l'a reconnu que pendant 15 ou 20 ans, alors qu'eux, ils attendaient des dividendes de la part des partenaires, et ça ne venait pas, ils attendaient les impôts pour l'État, et cela non plus ne venait pas pour reconstruire les pays, alors parce que les entreprises, elles, ont pris les gisements de la GECAMI, elles sont allées donner en garantie à des banques étrangères.
Mais, monsieur Gilles, je n'en disconviens pas. Ne fût-ce que la production de notre pays à la GECAMI. Je vous dis que quand vous allez à Colouézi, il y avait, nous qui étions à la cité Kapata, il y avait Kapata qui produisait à la carrière là-bas, Kabulungu, et il y avait ceux qui étaient à la GECAMI. Partout là-bas, il y avait partout, même à l'Ikassi.
Oui, Jérémy, vous évoquez le passé, nous sommes dans le présent maintenant.
Dans le présent, oui. Aujourd'hui, dans le présent.
En 90, la situation politico-sociale est devenue très difficile. Il fallait l'effort de guerre, contribuer à l'effort de guerre. Des entreprises minières ne pouvaient pas, étaient vraiment à bout de souffle. L'État était financièrement en difficulté. Et voilà, la situation a empiré.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, aujourd'hui, il fallait des bons conseils à l'État congolais. Qu'est-ce que l'État congolais a fait pour qu'on en arrive là? Je pense qu'à mon humble avis, il fallait ne fût-ce que placer des gens à la tête, des gens qui ont une politique d'ouverture. Parce qu'à la GECAMI, il faut...
Comme le propose le révérend Dr. King. Des gens qui ont l'esprit de l'ouverture, aller vers des plateformes boursières.
Effectivement, pour pouvoir, n'est-ce pas, renflouer la caisse de ça et payer les agents qui travaillent là. Et aujourd'hui, M. JR, je voudrais aussi évoquer un problème.
Rapidement, parce que vous êtes nombreux, oui.
Oui, quand vous regardez aujourd'hui, parce que je pense que c'est bien comme le Premier ministre, lui-même qui a vu, qui a vécu dans l'assiette, ce qui se passe, il est maintenant aux affaires et c'est lui qui est là aux commandes de la gestion, donc c'est-à-dire de la politique de notre pays. Il connaît c'est pourquoi la GECAMI là est par terre. Et je pense qu'il revient à lui
de trouver des solutions.
Mettre une politique adéquate. Il doit, pour pouvoir relancer totalement...
Tout au long de cette émission, on va vous dire exactement qu'est-ce que l'État congolais propose d'ailleurs dans son volet depuis 2019. Félix Antoine Tshisekedi a décidé la création d'une entreprise SGC. Donc on va parler d'un moment à l'autre. Alors, Alain Bolodjoie, vous êtes avec nous? Merci Jérémy. Alain, bonne arrivée. Alain.
Oui, alors bonjour Radio Capé, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Alors, comment commentez-vous cette affaire et qu'est-ce qu'il faut changer dans l'urgence?
Bon, comme vous l'avez constaté, ça relance beaucoup de débats à la fois. Parce que ce qui m'a plus touché, c'est la sincérité de M. Yuma, qui a démontré qu'il y avait des décisions irréfléchis ou mal réfléchis qui ont été prises, ça a occasionné un manque à gagner terrible et cela justifie dans une large mesure l'incapacité de l'État à avoir le moyen de ses politiques ou de sa politique. Ce que j'ai pas aimé, c'est le côté responsabilité. Mm-hmm. Parce que je sais que tout ce qui a été pris comme décision, ça n'a pas été fait de manière automatique et c'était progressif. Je me souviens qu'à un certain moment, il y avait une partie de concession de la GECAMI qui était cédée. Il y avait une autre partie qui restait justement pour permettre à la GECAMI de produire à son niveau. Parce que au départ, en tant qu'actionnaire, elle avait droit à des dividendes, mais en tant qu'entreprise, elle pouvait aussi exploiter. Et nous avons appris pendant ces périodes-là qu'il y avait d'autres concessions de la GECAMINE qui étaient cédées juste après la première décision. Alors, nous nous posons la question, quand on brade ou quand on donne ou on vend le part de l'entreprise, ça devait rapporter quelque chose.
Tout à fait.
Et à cette époque-là, on parlait de 1 milliard 200 millions quelque chose, et nous, nous pensons que cet argent allait figurer ou apparaître dans le budget. Jusque-là, on n'a pas vu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous savons que ce que M. Nyuma a dit, c'est ce qui s'était passé. Mais il ne nous a pas dit sur sa responsabilité à lui. Parce que lorsqu'on avait cédé à ces entreprises-là, il restait une partie importante. Mais lorsque lui a pris la décision de brader, il ne nous a pas donné, il ne nous a pas dit sa responsabilité. Et il n'y a pas que la GECAMINE. Il y a l'autre fois, nous avons parlé de la Sukimo. La même situation, c'est-à-dire que toutes ces entreprises-là qui apportaient quelque chose dans l'État, le budget, eh bien, ont été bradées, justement, parce
mais c'était sous les, c'était sous les conseils des partenaires. Allez, Bolojoa, c'était sous les conseils des partenaires, notamment les FMI et la Banque mondiale.
Non, mais comme votre invité l'a si bien dit, c'était un conseil. Ce n'était pas.
Après, on doit laisser.
Nous, nous pensions que nous avons des gens responsables à la tête du pays qui prenaient le temps de réfléchir sur le contour des actions ou de propositions, et nous nous rendons compte qu'ils ont été bernés. Et c'est là une incidence sur la vie de tout le monde.
Tout le monde.
Parce que déjà, au départ, tout le monde jetait son regard sur le mine. Et aujourd'hui, on nous apprend que nous n'avons plus rien.
On n'a plus rien. Merci beaucoup, Alain Bolojoa. Merci, Alain, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent.
On n'arrive pas à bien gérer. Ce qui veut dire que nous avons le malheur d'avoir des dirigeants qui pensent à tout sauf à l'intérêt de la nation. Et c'est décevant.
Voilà. Merci beaucoup, Alain. On va prendre le dernier auditeur de la troisième ligne. C'est Christian. Christian, vous êtes avec nous, Christian?
Jerry, bonjour à l'invité.
Voilà. Christian, vous avez la parole. Quel est votre commentaire et que devons-nous faire aujourd'hui dans l'urgence?
Merci de la parole accordée et bonjour à l'invité. Je crois que cette question relance les débats sur la responsabilité des autorités congolaises concernant l'irresponsabilité sur la manière dont nos richesses naturelles sont jusque-là, je dirais, j'emprunterai également ces mots, bradées. Donc, en réalité, on se retrouve face à des personnes qui ont hypothéqué la richesse du pays pour avoir la longévité au pouvoir, et d'autres ont hypothéqué la sécurité du pays pour avoir les poids politiques. En d'autres termes, nous pouvons dire que les régimes tant décriés par le passé, que nous avions un régime de prédation des ressources naturelles, aujourd'hui cela se prêche en plein air. Il est démontré noir sur blanc que ces régimes n'étaient pas seulement prédateurs des ressources naturelles, mais aussi les régimes des ressources
Est-ce que vous avez l'impression, Christian, d'être en face d'un pyromane qui se transforme en sapeur-pompier?
Nous serons tentés de les confirmer, parce que pourquoi M. Yuma a attendu 15 ans ou encore plusieurs décennies pour dénoncer ce fait? Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est une bonne chose. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est prendre conscience. Nous devons soit remettre la GECAMINE dans ses droits. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avions vécu, il y a eu la longévité du pouvoir. En contrepartie, les richesses ont été cédées. Mais où en sommes-nous avec l'économie congolaise qui continue à en pâtir? Voyez-vous? Et de l'autre côté, la sécurité a été cédée. Nous avons ce phénomène d'insécurité partout, parce que d'autres personnes ont cédé, justement, la sécurité du pays pour avoir les poids politiques.
Donc, si je comprends bien, vous souhaitez que ces contrats soient, disons, corriger, révisiter?
On doit tout simplement
annuler ces contrats. Merci beaucoup.
Du moment où l'État congolais, bien la population
ne se retrouve pas,
ne se retrouve pas, en tout cas, je crois qu'il faut mettre clairement fin à ces contrats. Il faut mettre clairement fin à ces contrats. Nous devons construire notre pays, mais ce n'est pas en cédant la totalité de ce que nous avons, de ce que nous pouvons constituer comme un avantage pour bien construire un État avec une économie forte, j'y avoue.
Merci beaucoup, Elie Lokoa. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et qui nous recevons pour vous dans ces studios, le révérend docteur King Kabobolé, qui est le consultant international en expansion économique des pays et croissance des affaires. Donc avec lui, nous parlons de cette affaire Gécamines avec ses partenaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour corriger les erreurs reconnues par ceux qui sont aux affaires, qui dirigent la Gécamines, et même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui reconnaissent qu'il y a pratiquement des erreurs fatales à corriger. Alors, docteur Révérend King Kabobolé, vous avez suivi les auditeurs. D'abord, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Je crois que, JR, il faut qu'on évolue et il faut qu'on élève le débat. Sinon, ne parler que de la Gécamines, pour moi, ça serait diminuer trop le débat. Le pays n'est pas constitué de la Gécamines. Nous sommes en train de parler des minerais.
Donc ça relance les débats sur les ressources.
Oui, les minerais ne sont pas que le cuivre et le cobalt. Nous avons le coltan, nous avons l'or que la Gécamines n'exploite pas, nous avons le diamant. Nous devons d'abord lever le débat. Je suis pas venu pour discuter de la Gécamines. La Gécamines que je connais très bien, l'autre qui a parlé. Moi, je viens d'Elikassi, mon père a travaillé à la Gécamines, j'ai étudié à Oustawi, j'ai étudié à Oukweli, tout là, je suis un enfant Gécamines. La Gécamines m'a inscrit à l'université de Lubumbashi.
Alors comment sauver l'industrie minière?
Oui, c'est l'industrie minière. Donc nous élevons le débat. Donc il y a eu, depuis quelques années, 20 ans, il y a eu un dérapage. Okay? On a invité à l'époque, donc retraçons l'historique, à l'époque, l'exploitation minière ne se faisait qu'avec les entreprises d'État. C'est comme ça que nous avons la Sokimo, qui était l'office d'or de Kilomoto. Nous avons la Gécamines, général des carrières et des mines. Nous avons la MIBA, la minière de Bakwanga, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des entreprises d'État. Nous avons Kisenge Manganèse. Mais à l'arrivée de la FDL, l'argent manquait. AMFI est venu, American Mining Field, quelque chose comme ça, à qui on a donné la concession des Tenkifungurume pour pouvoir avoir de l'argent pour souffler après la guerre. C'est comme ça qu'il y a eu l'atomisation des ou le même pas bradage, atomisation. Donc on a fait une ouverture, les gens ont commencé à acquérir des concessions minières, les entreprises ont commencé à venir, les entreprises qui sont venues, elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas venues seulement pour piller. Mais ils ont vu peut-être les pratiques qu'il y a eu dans le pays. Nous parlons de tout le pays. La Gécamines n'a qu'à résoudre ses problèmes. Je ne suis pas là pour la Gécamines. Le Premier ministre vient de la Gécamines, le nouveau Premier ministre, il vient de la Gécamines. Je crois qu'il est assez outillé.
Et l'auditeur a souligné également la situation au niveau de Sokimoun.
C'est lui qui était DG de la Gécamines. Il vient de là en tant que DG de la Gécamines. Il est Premier ministre. J'ai confiance
en lui.
J'ai confiance en lui. Il va gérer le problème de la Gécamines. Mais nous sommes ici pour un débat national. Donc, dans le passé, et j'insiste, les moyens pour les
entreprises... À l'appel de l'AFDEL, la situation...
Oui. Les entreprises qui sont venues, elles ont trouvé deux outils que la République a utilisé. Le premier outil, le code minier. Le deuxième outil, les codes de investissement. Ce sont les deux. Il faut d'abord aller lire ça. Qu'est-ce qu'on a mis dans le code? Il y a eu beaucoup d'exonérations, par exemple, parce que il fallait attirer. Est-ce qu'on a attiré les investisseurs? Oui. Mais est-ce qu'on a profité
des investisseurs? Et puis,
oui, il fallait les inciter.
Parce qu'on parlait à cette époque-là, le climat des affaires, améliorer le climat des affaires, le code.
Tout à fait. La NAPI était là, la NAPI a aidé. Est-ce qu'on a attiré les investisseurs? Oui. Nous avons eu beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'on a profité des investisseurs? C'est ça le problème. Mais la question, la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi la nation
n'a pas bénéficié de ces investissements-là.
Bon, ça, il faut aller en profondeur. C'est toute une grande analyse. Quand un investisseur éclairons d'abord l'opinion, ou éclaircissons l'opinion. Quand un investisseur amène $1 milliard au Congo, et quand un investisseur amène le même milliard en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence? Quand il amène au Congo, il amène 1 milliard. Est-ce qu'il va acheter les machines au Congo? On fabrique les machines au Congo. Est-ce qu'il va acheter même le pneu au Congo? Est-ce qu'il va acheter les intrants au Congo? Non. Il amène 1 milliard. Il est aux États-Unis. Nous prenons Mac Moran qui a pris Tenke Fungurume. Tout est venu des États-Unis. Le 1 milliard ou 2 milliards investis au Congo, mais ça profitait à l'économie américaine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils produisent les outils. Ils produisent les intrants. Quand quelqu'un vient en Afrique du Sud, il met 1 milliard. Peut-être 500 millions vont rester en Afrique du Sud parce qu'ils produisent. Nous, l'argent, quand on investit, ce sont les machines qui sont venues. Le montant en cash, c'est seulement le montant qu'on donne pour la masse salariale, qui entre dans la circulation monétaire, et les taxes. Donc les taxes sont très trop détrimentales. Mais comment est-ce qu'on reçoit les taxes? Deux formes, il y a les redevances d'un côté et il y a les taxes en fin d'année. Mais c'est basé sur quoi? Je reviens encore sur cette histoire d'assiette, l'assiettabilité. Notre assiette, c'est fait de quoi? Le problème que nous avons ici, nous sommes le seul pays au monde. Quand quelqu'un produit, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons le minerai. Qu'est-ce qu'on dit? Va vendre, quand tu auras vendu, tu vas nous retourner l'argent. Mais va vendre à quel prix? Il va vendre à quel prix? Nos taxes sont basées sur quelque chose d'intangible. Mais si nous commençons à vendre le minerai, nous commençons. Le Ghana aujourd'hui a une bourse où tu as exploité l'or au Ghana. Eh ben, tu vas le vendre au Ghana. Tu as exploité le platinium en Afrique du Sud. Eh ben, tu vas aller à la SAFEX. Tu vas vendre ça à la SAFEX. Tu as exploité le diamant en Namibie, André l'a dit, mais tu vas vendre ça en Namibie.
Alors, révérend docteur King Kabobolé,
oui.
Donc vous proposez à la RDC de prendre comme paradigme l'Afrique du Sud.
Non, pas seulement. L'Afrique du Sud a ses problèmes, mais de prendre le modèle.
Quelle est la solution alors? Quel est le modèle?
La solution, la valeur taxable, l'assiette d'imposabilité, notre code le dit. 241, c'est la valeur commerciale, la valeur marchande. Mais cette valeur marchande n'existe pas parce qu'on ne commercialise pas. Qu'on commence à voir par commercialiser au Congo. Qu'on ait une bourse des métaux au Congo.
Alors, le chef de l'État a décidé, dans un autre volet, disons, parce que la vie, c'est comme si c'est un aveu déjà d'échec. De l'autre côté, les partenaires sont là, ils ont déjà les contrats, c'est difficile d'annuler ces contrats.
On va y aller.
Il propose de créer une entreprise qui va gérer le cobalt, notamment. C'est vrai que nous parlons sur le plan national, mais il propose une deuxième solution, c'est l'autorité de régulation du secteur minier.
Oui. Quand tu me parles d'une entreprise qui va gérer le cobalt, tu me parles de
EGC.
EGC. Mais EGC va...
Qui va gérer 25% seulement. 25% des exportations.
Non, il ne va pas gérer le cobalt. Il va s'occuper. Il prend le monopole d'acheter le cobalt qui vient de l'artisanat. Ça, ce n'est pas gérer le cobalt. Gérer le cobalt, c'est prendre tout le cobalt produit au Congo, vendu au Congo. C'est ça le problème. EGC va s'occuper de l'artisanal. Avec 25%, vous n'allez pas changer le prix mondial des métaux. Nous devons le premier prix du cobalt. Comment est-ce que nous pouvons aller à Londres prendre LME? Nous fixer sur LME qui lui ne produit absolument rien. LME, c'est une plateforme là où les gens vont.
Donc c'est une option dangereuse.
Mais c'est une option très, très dangereuse. Parce que il faut.
Mais alors, la question, mais qui a proposé ça au chef de l'État?
Je ne veux pas entrer dans ces débats, parce que moi aussi j'ai proposé d'autres choses au chef de l'État. Moi j'ai proposé la création, et nous sommes déjà dans le débat, la création des SICOMEX. SICOMEX, c'est Congo Commodity Exchange. Que la première valeur du minerai congolais doit être trouvé d'abord au Congo. On ne doit pas faire un discounting, c'est-à-dire on prend la valeur de Londres, on diminue les transports, on diminue pour trouver la valeur. Non, mais nous avons produit. Moi, j'ai produit mon maïs. Comment vous allez me fixer le prix? Le prix est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est international.
Dans le discounting, vous parlez de réduction.
Oui, on parle de réduction.
Au rabais.
Donc, nous partons d'abord de Londres pour rentrer au Congo. Mais le minerai a été produit au Congo. Qu'on vende d'abord, qu'on ait une structure de vente de minerai du Congo. Tout le monde, Tenke Fungurume, tout le monde, Glencore, vous avez produit le minerai, eh bien, vous le vendez au Congo. Vous pouvez le vendre à vous-même. Mais vous le vendez au Congo pour que nous puissions d'abord faire la découverte de prix. Le fair market, le fair price. Que nous devons le trouver au Congo. Parce que ce prix-là, il est détrimental. C'est sur base de ces prix qu'on va calculer les redevances. C'est sur base de ces prix qu'on va calculer les taxes. C'est sur base de ces prix qu'on connaîtra les chiffres d'affaires des entreprises. Alors, quand on va commencer, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié l'assiette.
l'assiette est devenue grande. Mmh. Avec maintenant le taux qu'on a augmenté, mais on va arriver à ce que moi j'appelle la maximisation des recettes de l'État partant. Mmh. De produits miniers machin. Ce n'est pas qu'on va raffiner le cuivre ou le cobalt. Non, on va pas le raffiner. Mmh. On va le vendre tel qu'on le vend aujourd'hui, mais on va taxer sur une valeur marchande. Mmh. Pourquoi est-ce que le Rwanda a une bourse?
Et donc, si je ne comprends pas bien, vous insistez que sur la plateforme boursière, ce sera une solution pour nous pour sauver l'industrie minière.
Il n'y a que ça.
Voilà. Alors, on va écouter les auditeurs.
Il n'y a que ça.
Élie Lecoy. Élie, vous êtes avec nous, Élie. Élie, vous êtes avec nous?
Oui, allô.
Oui, Élie, rapidement, vous avez écouté notre invité qui pense que la solution idoine ne passerait que par l'accession de la RDC à une plateforme boursière pour sauver notre industrie minière.
En tout cas, je tiens d'abord à féliciter l'éloquence de l'invité, puisqu'il a pointé du doigt à des véritables réalités de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tous reconnaître que tous les gisements, donc en grande quantité l'espace géologique de notre pays, sont cédés aux étrangers. Donc, c'est la honte de voir les multinationales, qui sont les expatriés, les étrangers, arriver à bénéficier de nos richesses, de nos actifs congolais, parce qu'aujourd'hui, tous les blancs en Europe, en Asie, en Moyen-Orient, quand ils détiennent un téléphone, quand ils marchent avec la voiture électronique, électrique, permettez, il y a les traces congolaises dedans. Mmh. Tous les téléphones utilisés en Europe, les voitures électriques, il y a les traces des actifs congolais. Et donc, nous devons, nous, les Congolais, aujourd'hui, parce que le discours de la déclaration de M. Albert Youma, c'est une déclaration qui nous amène à la révolte. Parce qu'il y a à peu près 15 ans que toutes les richesses de notre pays, à travers la GECAMINE, ont été cédées aux étrangers. Et donc...
Non, il n'y a pas que la GECAMINE, Sokimo connaît la même situation, et d'autres entreprises minières se retrouvent pratiquement au bas de l'échelle.
Mais en tout cas, je me rallie. Quand j'ai suivi un intervenant qui disait il faut résilier d'abord les contrats. Parce qu'on ne peut pas céder nos richesses. Il faut d'abord...
Alors, on verra avec l'invité, quel est le danger aujourd'hui s'il faut annuler.
Le secteur minier, JR, le secteur minier, ça nous aide à avoir une assiette, bien entendu, économique pour la République. Mmh. Et que ça doit être un secteur rien que pour l'État. Mmh. Donc, il ne faut pas donner le secteur minier au privé. Mmh. Et donc l'État lui-même, qui est le pouvoir public, doit créer les sociétés, les entreprises de l'État pour l'exploitation des ressources minières de la République. Non, pourtant donner aux particuliers, aux individus...
Ça pose toujours problème. Merci beaucoup, Élie. Voilà, merci, Élie. On va accorder également la parole à Franck. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Franck, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, notre ami Gère, bonjour à
nous. Oui, rapidement, vous avez la parole. Vous avez la parole. Quel est votre
commentaire? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je vais présenter ma modeste contribution en trois petits points. Au premier, c'est ma réaction citoyenne par rapport à cette révélation. Et au deuxième, ça serait deux petites suggestions comme citoyen de cet État. Et mon ami Gère, à lire, à comprendre ce qui s'est dit lors de cette interview, on ne peut plus douter pour affirmer l'opinion selon laquelle beaucoup de gens disent et savent que la République démocratique du Congo a un très grand problème, c'est le problème d'hommes, de moralité de ses citoyens, de leurs convictions citoyennes et de leur maturité politique. Parce que cette révélation atteste...
Est-ce que Franck, vous pensez qu'il y a des options...
comme État est mal gouverné à beaucoup de niveaux, et si cette révélation nous vient de M. Albert Youma, au regard de ses attributions et responsabilités au sein de cette grande entreprise, ça fait pleurer et ça peut même faire soulever les citoyens si on avait vraiment le patriotisme. Et il y a déjà des amis qui ont peut-être tout dit, je crois que la situation est là en face de nous.
Voilà, la solution telle qu'est proposée par notre invité.
Pourquoi, monsieur? Oui.
Notre invité a proposé une solution. Il faut plutôt aller vers les plateformes boursières pour sauver l'industrie minière. Qu'en dites-vous?
Je ne suis pas vraiment spécialiste du domaine. Moi, je crois qu'il faut d'abord que notre justice s'implique aussi dans les dossiers, que la justice se saisisse d'abord du dossier.
De cette déclaration et tout ce qui a été impliqué dans cette erreur.
Le code minier à faire une relecture pour chercher d'abord à réhabiliter l'État congolais dans cette loi. Parce que on ne peut pas comprendre que l'État congolais dans cette affaire ait des actions minoritaires ou l'État congolais soit le vrai dindon de la farce. Et il faut aussi que notre justice arrive d'abord à interpeller tous ces clubs d'amis qui ont bradé cette entreprise-là. Parce qu'on donne l'information, mais je crois qu'après avoir donné l'information, on doit aussi tabler des parts de responsabilité.
Des parts de responsabilité.
Qui a fait quoi dans cette histoire-là? Qui a suggéré quoi?
Et qui a gagné
qui
au nom de la République.
Cette démarche-là.
Merci beaucoup, Franck. Alors, on va prendre Sylvain Abounia. Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Parlez un peu fort, Sylvain. Dynamisez un peu votre voix.
J'ai dit bonjour, là vous me suivez quand même.
Voilà, allez-y, vous avez la parole. Vous avez suivi notre invité, les commentaires. Comment, que faire aujourd'hui pour sauver l'industrie minière?
Je vais commencer par lire l'article 33 du code minier du 9 mars 2008. L'article 33 dit ceci: le gouvernement, par le truchement des ministères, soumet à l'appel d'offres ouvert ou restreint, les droits miniers et des carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l'État à travers ses services. Alinéa 2. Dans ce cas, le ministère réserve par arrêté les droits miniers sur le gisement.
Voilà, vous n'allez pas tout lire parce que c'est quand même un article très long.
Oui. Nous avons le code. Oui. Nous avons le code.
On a le code avec nous.
On l'a avec nous. On est à l'article 33.
Oui, c'est tellement long que.
C'est tellement long. Il y a même 33 bis, donc c'est tellement long. Donnez seulement votre idée, comme ça on sait de quoi vous parlez.
S'il vous plaît, nous sommes dans un échange. Permettez que nous puissions donner notre point de vue. C'est à cause de ça que vous nous avez associé dans l'émission.
Allez-y.
Je voudrais d'abord m'arrêter là. Je voudrais m'arrêter là. Et lorsque vous avancez dans la lecture de cet alinéa, on vous dit que tout doit se passer sur base des principes qui sont contenus dans la loi sur la passation des marchés publics. J'ai suivi l'invité, que je salue. J'ai suivi aussi Messie, que je salue aussi, et Franck. Ce qui étonne est que nous puissions entrer dans des commentaires autour de la gouvernance du secteur minier au pays, alors que nous savons où résident les problèmes. Le contrat léonais qu'aujourd'hui révèle M. Albert Yuma, ils ne sont pas étonnants. Nous sommes au courant que depuis 1997 et même avant, les mines congolaises ont été vendues au vil prix en défaveur des Congolais.
Tout à fait.
Le processus de la désappropriation des mines, et ça je peux même aller sur tous les secteurs de la vie nationale,
tout à fait,
a été amorcé par des politiques publiques irresponsables établies dans ces pays et qui demandent à ce que des élites congolaises aujourd'hui, politiques, scientifiques soient-ils, professionnelles, se mettent ensemble pour essayer de changer la donne. La question ici, c'est en fait des comportements léonais des personnes chargées des tâches publiques qui ne permettent pas que les gouvernements travaillent dans le sens
avoir les moyens de sa
gouverner politique. Les intentions, les aspirations des Congolais. Je voudrais peut-être aussi soulever un aspect. Vous avez suivi, ça fait quelques mois, lorsque nous avons soulevé la question de la Soukimo en Ituri, puisque j'ai parlé en état en Ituri. Lorsque AGN a voulu récupérer encore les 10%, et d'ailleurs nous disons que c'est presque fait, alors que les 45, les 90 autres étaient divisés entre les deux actrices que vous connaissez, on n'a pas compris comment est-ce qu'un gouvernement responsable pouvait accepter de tels accords et que totalement l'entreprise de l'État soit désappropriée et qu'elle n'ait même pas la même mise sur même 1% de gisement à sa possession. Donc c'est un comportement malhonnête des hommes politiques. Des propositions existent, des lois existent, mais moi je pense qu'il faut changer l'homme congolais comme Franck l'a dit. Et c'est là le problème. Sinon, on a tout dans ces pays, mais nous avons des hommes criminels à la
tête
et ça dérange.
Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on va prendre Augustin de Kadangas. Augustin, vous êtes avec nous? Augustin? Augustin? Voilà, la discussion avec la ligne d'Augustin. Alors, on revient à vous, révérend docteur King Kabobolé. Vous venez de suivre Sylvain tout à l'heure, hein, qui a évoqué également le cas de la Sokimo. Vous proposez l'accession de la RDC dans une plateforme boursière qui pourrait sauver l'industrie pratiquement minière. Mais entre-temps, il y a cette question du problème d'hommes. Ce sont des hommes qui négocient, ce sont des hommes qui lèvent les options, qui lèvent même certaines orientations. Et si ce sont les mêmes hommes qui vont aller vers ce que vous proposez, quelles sont les garanties de la sincérité et du patriotisme même dans cette affaire?
Là, vous m'amenez sur un terrain très glissant. Quand vous me parlez des hommes, quand vous me parlez des garanties des hommes, vous m'amenez sur un terrain glissant parce que je suis dans ce domaine-là, de leadership, dans le domaine de formation. Mais n'oubliez pas qu'on doit revenir, aux solutions. Mmh. On doit revenir aux solutions. Mmh. Mais faisons d'abord une parenthèse sur les hommes. Tout on ouvre fait. La parenthèse et puis on la ferme. Mmh. Comment est-ce que les hommes sont choisis? Aujourd'hui, je ne suis pas dans la politique.
Non, on ne fait pas le jugement de valeur, mais oui. On dit les choses comment, parce qu'il y a quand même des fondamentaux.
Et c'est ça, c'est un des problèmes. Entre la politique et la gestion, nous devons faire. Ça, c'est complexe. C'est un problème complexe. Comment est-ce qu'on devient ministre au Congo? Chancelier Kopamba. Très facile. Le principe est déjà presque acquis. Mm-hmm. Vous voulez devenir ministre? Un, créer un parti politique. Deux, entrer dans la majorité, dans la plateforme majoritaire. Trois, faites le bruit. Quatre, vous êtes nommé. Cinq, vous volez. Alors, comment est-ce qu'on devient mandataire? C'est le même principe, mais quand vous faites le bruit, si vous ne passez pas ministre, vous attendez quand on va choisir les mandataires. C'est vrai, on devient ministre dans les autres pays, en France, en Europe et tout, parce qu'on est parti dans les partis politiques et tout là, mais méritocratie, mm-hmm. quand bien on est dans les partis politiques. Parce que sinon...
Et on y entre avec un objectif précis.
Nous sommes dans une parenthèse. Mm-hmm. Nous sommes toujours dans la parenthèse.
Qu'on ferme rapidement d'ailleurs parce qu'on doit avancer.
Qu'on doit fermer rapidement. Pourquoi est-ce que chez nous, quand on nomme quelqu'un...
Il doit fêter.
Parce
qu'il va à la mangeoire.
Parce qu'il va à la mangeoire. Mm-hmm. Mais normalement, quand on nomme quelqu'un, il doit pleurer.
C'est un service public.
Oui, non, il doit pleurer.
Il doit pleurer parce
qu'il ne sait pas
qu'est-ce qu'il attend.
Il a une charge, il s'est dit, est-ce que je peux? Mm-hmm. La différence, elle est très grande. Mm-hmm. Alors, la corruption, elle est d'abord mentale, elle est d'abord individuelle. Nous avons beaucoup de gens qui sont corrompus et qui vont maintenant en politique ou qui vont en gestion. Ça, c'est le problème d'homme. C'est vous qui l'avez ouvert. Hein. Mm-hmm. Je n'ai pas ouvert ce débat-là. Mais rentrons sur
Quelles sont les solutions pour sauver l'industrie minière de la RDC?
Pour moi, deux choses. Nous avons d'abord, on doit placer le temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Mm-hmm. Le passé... Dans le passé, il y a des choses qui se sont faites. André Wameso a parlé de... Il dit, je ne suis pas là pour faire la justice. La justice fera sa justice. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais dans le passé, les erreurs qu'il y a eu pour moi, il y a eu des erreurs qui ont coûté au Congo. Là où le Chili, vous dites le Chili ou la Chili, bon, Chili. Bon, là où la Chili, parce qu'on prend le deux. La Chili a un certain moment...
Le Chili.
Le Chili, après un certain moment, je suis anglophone, ça fait 30 ans que je suis en Afrique du Sud.
Je comprends.
Donc, le Chili, après plus de 3 décennies de gestion, des mines par les entreprises américaines, les conglomérats, un jour, il leur a dit, eh bien, vous fermez les portes. Vous fermez les portes, pourquoi? Il dit, nous avons calculé ce que vous nous devriez, que vous n'avez pas payé, mm-hmm. ça équivaut au capital que vous avez amené, maintenant les mines nous reviennent. Ce n'est pas une nationalisation, non, mm-hmm. c'est un transfert de capitaux, parce que l'autre, il a pris assez. Et ils ont pris à charge, ils mm-hmm. ont pris l'industrie, je l'ai dit. Même au cadastre minier, j'ai dit quand j'ai fait une conférence sur la bourse chez eux, je l'avais dit à la c'était CPM et tout là, je l'avais dit. Mm-hmm. Je leur ai donné le cas de Chili. Donc nous pouvons nous récupérer notre taxe la taxe référentielle déférée. Mm-hmm. Parce que c'est-à-dire les gens qui ne payent pas les taxes aujourd'hui, eh ben ils sont en train de s'endetter vers l'État. Nous devons faire une régression. Je ne parle pas de la révisitation de contrats. Non, mm-hmm. on rentre pour auditer. Pour dire, voilà, les valeurs étaient celles-ci sur le plan international. Mais vous avez exporté les minerais à 15 dollars pendant que c'était à 35 dollars à cette période-là. Nous faisons une révision pour récupérer notre taxe référentielles en même temps pour récupérer aussi nos redevances référentielles. Il y a des dettes qui sont là, que le pays n'a pas encore récupéré. Mais ne sait même pas. Ça, ce sont les dettes du passé. C'est pour moi, c'est ça la correction du passé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé le passé. Mais maintenant, nous avons le futur. Le futur, il faut maintenant l'améliorer. Comment améliorer le futur? Comment faire de sorte que les mêmes pratiques... Demain, en ce moment où nous sommes en train de parler, à Kasumbalé, ça, les tracts sont en train de passer avec les minerais. Mais à quel prix? Pour quelle redevance? Nous devons corriger cela. Nous devons ramener le pays dans la découverte de prix. On ne découvre le prix. Le prix, on le découvre. Il existe quelque part dans le mécanisme de la loi, de l'offre et de la demande.
Donc il faut aujourd'hui taxer les partenaires avec effet rétro.
Oui, 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 on doit rentrer dans ça.
Avec
effet rétro, il y a des milliards qui sont là-dedans. Écoute, c'est une parenthèse que j'ouvre aussi que je ferme. J'ai un cas, pour l'instant, je suis consultant, j'ai un cas, j'ai passé 10 mois l'année passée ici, en train de discuter avec DGDA et tout là, parce qu'un Congolais a montré à la République du Congo, sous demande de la République du Congo, que s'il y a de fraude, vous constatez qu'il y a de fraude et tout là, voilà, il faut dénoncer. Il a dénoncé. Le Congo a trouvé 30 000 tonnes de cuivre en Afrique du Sud. Le monsieur a dénoncé et le Congo a mis SARS. SARS, c'est la douane sud-africaine. On a arrêté ces choses-là. On a appelé la délégation de l'antifraude du Congo. Fait avec toutes les vous appelez ça interministériel, CEC, Twitter, tout le monde était là. OK? Ils ont récupéré la valeur. Vous prenez la mine de Mopani en Zambie, elle produit 34 000 tonnes par an. Parce qu'elle va maintenant s'améliorer, mais elle produit 34 000 tonnes. Donc ici, c'est 30 000 tonnes. C'est-à-dire toute la production d'une mine trouvée, bradés, qui ont quitté le Congo, on les saisit. Le CEC a évalué ça à 232 millions de dollars américains. Vous savez qu'est-ce que le Congo a demandé comme pénalité à ces messieurs-là? 3 millions de dollars.
Seulement.
Et mon client, jusque-là, on n'a pas encore payé. On n'a pas encore payé. Mais quand on repart, c'est parti en Suisse et tout là. Quand je trace, je fais tout là. Toute la valeur, ça peut aller après transformation. Ça va jusqu'à 1 milliard de dollars. Ça, c'est ça notre pays.
Un manque à gagner.
Un manque à gagner. Parenthèse fermée. Mais maintenant, ici.
Alors, donc nous quittons. Première chose, c'est la taxe référentielle.
La taxe référentielle. Avec
effet rétro, on va imposer. Alors, deuxième chose.
Deuxième chose, mécanisme de couverte de prix. C'est-à-dire, c'est toujours ma plateforme boursière. La bourse pour que le minerai soit vendu d'abord au Congo. Si tu veux acheter les minerais. Tu ne dois pas acheter les minerais du Congo en Chine, tu ne dois pas acheter les minerais du Congo à Londres, tu ne dois pas les acheter à Chicago, mais le minerai du Congo, il faut le vendre au Congo. C'est-à-dire, vous avez produit, mais on vous dit, quand vous produisez le diamant en Afrique du Sud, vous allez dans le Diamond Boat, Kimberley Diamond Boat, vous allez là-bas pour vendre votre diamant. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud s'est dit, ben, ce diamant ici, il faut que moi je récupère ma taxe. C'est la taxe qui est de l'État. La vente, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un va vendre et vous lui dites, allez vendre et puis venez nous payer la taxe, mais il va vous dire, j'ai vendu à tel prix. Mais si il vend ici, avec les mécanismes de contrôle, la taxe va se... Donc, dans le futur, nous avons d'abord recherche de prix. Deuxième, la recapitalisation des entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'étais à Dubaï, j'étais à Abu Dhabi, les entreprises font ceci. Ils vendent le minerai qui sont encore sous terre. Je ne parle pas des concessions. Ils vendent les minerais qui sont encore sous terre. On appelle ça vente in situ. C'est-à-dire, vous prenez 20% de vos minerais qui sont encore sous terre. Vous les vendez. Une sous-tout, vous le vendez pour faire quoi? Pour maintenant créer les mines, pour créer l'industrie. Quand vous le ressortez à la surface, les autres qui ont acheté les 20%, vous leur donnez en nature. Vous leur donnez leurs produits en nature. C'est tout un mécanisme que nous avons amené.
Ça peut marcher chez
vous? Oui, parce que quelqu'un vous donne 50 millions, il a acheté, c'est lui qui a pris le risque, pas vous. Parce que quand nous bradons, nous prenons le risque. Mais quand nous vendons une situ, c'est-à-dire, c'est lui qui met l'argent. Et il y a des gens qui voulaient même venir, qui voulaient même venir. Ils sont à Abu Dhabi, ils sont en Suisse, ils sont et tout là. Nous avons tous les contacts. Donc vous vendez, vous avez le capital, mais vous n'avez pas bradé votre concession, mais vous avez vendu. Mais bien sûr, il y a des mécanismes pour arriver à ça. Et nous, dans la bourse, nous allons mettre ces mécanismes-là.
Alors, en termes simples, peut-être, je peux dire que l'expérience des joint ventures a échoué lamentablement au
complètement
Congo.
Complètement échoué. Parce que
John Venture, les contrats attribués.
Oui, ça a échoué.
Ça a échoué.
Et ça échouera donc, toujours ça avec échoué. La mentalité des gens.
Donc il faut comprendre les paradigmes que vous proposez.
Tout à fait.
Merci beaucoup, révérend Dr King Kabobolé, consultant international en expansion économique des pays et croissance des affaires. Je retiens deux choses dans votre solution. C'est la taxe référentielle et les mécanismes de découverte.
La taxe référentielle déférée.
Déférée
parce qu'on n'a pas encore payé.
Voilà, et les mécanismes de découverte qui nous amènent droit vers des plateformes boursières. Voilà, c'est bien dit et c'est bien compris. Je crois que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Et le débat est lancé. Nous allons prendre rendez-vous avec vous, chers auditeurs, demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.